franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Hélène Jean.
Bonjour Patrick.
On commence par la Syrie et un début d'aide humanitaire parvenu hier dans la ville assiégée de Madaya.
Les premiers camions de nourriture et de médicaments ont fini par pénétrer hier en fin d'après-midi à l'intérieur de cette ville de Madaya, affamée, assiégée depuis des mois. Dans La Croix, Isabelle de Golmine raconte comment ces milliers d'habitants qui souffrent de la faim sont aujourd'hui les otages d'une guerre civile qui n'en finit pas. Doublement otages même, dit-elle. Une première fois de l'armée de Bachar el-Assad qui monnaie l'aide alimentaire contre des avancées militaires. Une seconde fois des opposants au régime syrien qui en font une arme de propagande. Jusqu'à, semble-t-il, écrit-elle, truquer les photos pour renforcer leur position. La Croix qui appelle donc à toute la prudence face à ces images de famine qui ont beaucoup circulé ces derniers jours. Hommes squelettiques, bébés faméliques, images épouvantables. Les agences photographiques ne sont pas en mesure de vérifier l'authenticité de ces photos, leur lieu, leur date. Alors attention à la manipulation. Mais il n'en reste pas moins que l'absence de nourriture est bien réelle dans cette ville, confirme MSF, où le kilo de riz se négocie à plus de 200 euros. En contrepoint à cette actualité de Madaya, un reportage à découvrir demain dans le magazine 21 sur les passeurs de vie. Ces hommes qui se consacrent à la libération de quelques-uns, quelques-unes, surtout des milliers de civils retenus en otage par Daesh. En septembre 2014, Abu Shouja a dû fuir sa région du Sinjar, le fief de la minorité yézidi, pour se réfugier dans le nord de l'Irak. Depuis, cet ancien commerçant tente coûte que coûte de sortir de Raqqa, des jeunes filles yézidis aujourd'hui considérées par l'État islamique comme de vulgaires marchandises. « C'est ma petite victoire sur eux », dit-il. La journaliste Célia Mercier nous raconte comment tous les trois mois, Raqqa, bastion des djihadistes, se tient un marché aux esclaves où les propriétaires se revendent leurs captives. Elle raconte les efforts d'Abu Shouja et de quelques autres pour les faire sortir de l'enfer avec de l'argent sonnant et trébuchant, 5 000 à 10 000 dollars pour faire sortir une femme de Syrie. Et les familles occidentales désormais qui se tournent vers lui afin qu'il leur vienne en aide pour ramener leurs enfants partis faire le djihad. Les passeurs de vie, première ligne de front contre Daesh, à lire dans 21.
Toujours à l'étranger, Hélène, deux discours attendus aujourd'hui.
Angela Merkel, qui a prévu de s'exprimer 12 jours après les graves incidents de Cologne qui ne cessent de secouer l'Allemagne. Nous devons repenser toute notre société multiculturelle, titre ce matin Die Welt. Commentaire dans Ouest France sur ce terrorisme contre les femmes. Tout est nauséabond, écrit Ouest France. De la violence pratiquée en meute à l'inaction de la police, à la réaction de l'extrême droite, ravie de trouver là un prétexte à ses ratonnades. Laurent Marchand qui note la convergence entre djihadistes et néofascistes qui rêvent tous, dit-il, de guerre civile. Il va être de plus en plus difficile pour Angela Merkel de concilier son engagement pour le droit d'asile et la nécessaire fermeté qu'exigent les crimes du 31 décembre. C'est pourtant la seule voie équilibrée, conclut-il. Jean-Pierre Raffarin, une réaction peut-être? Vous craignez que ces terribles incidents qu'on a vus donc à Cologne à la fin de l'année fassent dévier Angela Merkel de sa ligne et fassent écho même peut-être en France, chez nous?
Je pense qu'il faut toujours faire attention dans cette situation d'opinion publique qui est assez troublée aujourd'hui, où il y a beaucoup de peurs et que les peurs gouvernent. Il faut faire très attention en effet à ce qu'il n'y ait pas de nouveaux débordements. Et de ce point de vue-là, ce qui est préoccupant en Allemagne, c'est peut-être qu'il n'y a pas eu toute la transparence nécessaire très vite. Il faut que les citoyens aient confiance...
Sur ces incidents de Cologne.
Sur ces incidents de Cologne, il faut que les citoyens aient confiance dans l'information. Et donc, s'il y a à un moment ou un autre des manipulations publiques, tout ça est très grave. Le manque de confiance ajouté à la peur pourrait être catastrophique.
Également attendu aujourd'hui, dernier discours sur l'état de l'Union pour Barack Obama et retour attendu sur le contrôle des armes à feu. La Croix nous raconte que symboliquement, un siège sera laissé vide dans le box des invités en hommage aux victimes de tueries qui ont émaillé sa présidence. La Croix qui nous révèle aussi comment les mutations sociales en cours aux États-Unis pourraient finalement aider à résoudre ce casse-tête politique. Une étude vient en effet de montrer que la part des foyers possédant une arme à feu n'a jamais été aussi bas aux États-Unis et que le jeu de la démographie pourrait accentuer cette tendance. De moins en moins d'hommes blancs dans les années à venir, de moins en moins d'Américains en milieu rural et faiblement diplômés, toutes ces catégories les plus adeptes des armes à feu. Espoir donc dans les changements démographiques, mais ils sont lents, très lents.
24 heures d'hommage à David Bowie, hommage que l'on retrouve évidemment dans la presse ce matin.
Il n'y a guère que l'équipe ce matin pour échapper à Bowie à la une. Très beau portfolio de Libération qui consacre un numéro spécial aux vies au pluriel et à la mort de David Bowie. Et des éditorialistes politiques qui dans la presse régionale s'émeuvent de ce Lazare qui ressuscita tant de fois pour s'éteindre par surprise. Et dans la multitude d'avatars créés par Bowie, on retiendra ce matin cette facette un petit peu moins connue de l'icône pop. C'est raconté dans Les Échos. Bowie était aussi un businessman fasciné par les nouvelles technologies. Il fut le premier artiste majeur à proposer un titre en téléchargement. C'était en 97. Il est le premier à créer son site et même un fournisseur d'accès à Internet, BowieNet, pour faciliter l'accès de ses fans à sa musique. Novateur également quand il crée les Bowie Bonds, une façon de récupérer par avance l'argent que lui aurait rapporté l'exploitation de son catalogue dans le temps. Autant d'innovations qui n'ont pas forcément fait sa fortune. Bowie restait avant tout un artiste, concluent les journalistes des Échos. Un artiste néanmoins visionnaire sur la révolution Internet. Interview à la BBC en 2000, qui est rappelé sur le site ce matin slate.fr. « Je pense, disait-il à un journaliste, visiblement d'ailleurs peu convaincu par le sujet, que nous sommes à l'aube de quelque chose d'exaltant et de terrifiant. » Eh bien, on en est là.
Retour en France, Hélène, avec cette histoire qui a fait l'ouverture du journal de 7h30 et qu'on a entendu à 8h aussi. Premier commentaire du professeur agressé hier à Marseille.
C'est à un homme traumatisé que nous avons parlé quelques minutes hier soir, raconte La Provence. Benjamin, ce prof agressé à la machette, se dit marqué à jamais par la haine, dit-il, qu'il a vue dans les yeux de son agresseur, cet adolescent qui se serait radicalisé, seul, dit-on aujourd'hui. Pas de colère, dit encore Benjamin, mais de l'appréhension, oui. Benjamin ne veut pas quitter la France, mais en revanche, il reconnaît réfléchir à l'éventualité de cesser de porter la kippa dans la rue pour éviter ce genre de violence, ce dont s'émeuvait par avance Joël Mergui, le président du consistoire juif, dans notre journal de 8h. Et puis, on termine par Les Échos, rencontrés par l'appel à des primaires lancé hier à la Une de Libération. Accueil fait à l'Élysée. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui en France, Le Parisien et Le Figaro ont eu droit exactement au même commentaire de l'entourage, comme on dit, du chef de l'État. Ça lui en touche une, sans faire bouger l'autre. Expression triviale, largement popularisée par Jacques Chirac, reprise donc dans les deux quotidiens.
Le niveau monte à l'Élysée.
Ça s'appelle un élément de langage, tout ça pour dire que le président se situe bien au-dessus de ça, lui, ouais. Qui entend faire campagne comme père de la nation. Ne riez pas trop vite et pas trop fort, Jean-Pierre Raffarin, du malheur des autres, car l'ambiance de pré-campagne dans votre propre camp n'est pas des plus apaisées non plus. Le Parisien raconte comment une petite vidéo où l'on voit Alain Juppé esquisser quelques pas de danse dans une maison de retraite de Bordeaux à l'occasion de la Galette des Rois a fait le bonheur des réseaux sociaux. Et surtout, il a été assorti de ce commentaire un petit peu féroce d'un sénateur sarkozyste, se moquant de l'âge du capitaine. Juppé, il était en repérage dans la maison de retraite? Ça va être sympa chez vous aussi.
C'était sans doute en hommage à David Bowie, Let's Dance.
Exactement. Oui, c'était aussi souple. Merci Hélène Jouan pour la revue de presse sur Inter. Dans un quart d'heure, Jean-Pierre Raffarin, vous allez retrouver une figure familière de cette matinale. Alex Vizorek ici présent. Bonjour Alex.
Mais oui, bonjour à tous. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. C'est la quatrième fois que vous venez. Vous êtes mon meilleur client. J'ai eu personne plus que vous et j'ai quand même trouver quelque chose de neuf à vous raconter. Je reviens donc tout à l'heure.